Très content de le retrouver aujourd'hui, Matt Olubowski. Salut.
Bon matin.
Comment vas-tu?
Ça va super bien, merci.
Matt, ben oui, ça va très bien. Matt, nouvel album lancé l'automne dernier.
Oui.
Et là, la tournée commence.
Ça commence.
ça commence fort, parce que c'est une belle tournée.
Vraiment.
Qui commence pour toi, tu fais vraiment le tour du Québec. Mmh. C'est le souhait, évidemment, quand on se lance dans ce métier-là, de se promener le plus possible avec notre musique.
Oui, puis je pense qu'on a vraiment décroché la tournée de rêve.
Montréal en lumière, qui s'en vient bientôt, mmh. qui est la rentrée montréalaise de ton album.
Oui, techniquement, c'est
officiellement.
Parce que les rentrées montréalaises, normalement, c'est à la fin de la tournée. Mais là, on est comme dans le milieu de la tournée. Fait qu'on va falloir refaire une deuxième rentrée montréalaise pour la fin de la tournée.
Et c'est sold out.
Malheureusement.
Ça te fait quoi, ça?
Heureusement.
Ouais, mais ça te fait quoi, ça, de dire, OK, on lance une tournée, déjà, il y a des dates qui affichent complet?
C'est hallucinant. Pour vrai, c'est vraiment le rêve de pouvoir dire, t'espères qu'il y a au moins une ou deux personnes, généralement. Puis quand c'est plein, c'est vraiment spécial. Puis ça enlève déjà une pression. On essaie pas trop de penser à ces choses-là, les ventes de disques, puis les ventes de shows, puis tout ça, mais c'est une considération que quand t'es dans la salle, puis la salle est à moitié vide,
oui.
tu y penses, puis tu te demandes, tu te poses des questions. Mais là, ça enlève une grosse pression.
Et là, il y a le jazz qui s'est rajouté, en plus. Mm-hmm. Donc ça, c'est la supplémentaire, et là, c'est à la place des arts. Comme artiste, d'aller jouer à la place des arts, est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est un de dire je serai dans cet endroit mythique-là où plein de grands ont passé?
Ben absolument. C'est sûr qu'on nous offre la place des arts puis on le prend au sérieux. Ça va être en fait mon deuxième show à la place des arts. J'ai fait la cinquième salle.
Oui.
Là, on fait le théâtre Maisonneuve.
Qui est plus gros.
Qui est plus gros. Puis là, on vise pour.
Oui, c'est ça. Est-ce que Wilfrid Pelletier est la cible prochaine?
Ben, je sais pas, c'est peut-être un peu trop gros. Pour vrai, je pense que c'est peut-être un peu trop gros. Même le théâtre Maisonneuve, c'est gros. Et puis, la façon qu'on va concevoir ce show-là, c'est la scène est très grosse, mais nous, on joue avec les musiciens, on joue très près l'un de l'autre.
OK. Qu'on va comme... Donc, on essaie de garder un côté intime,
ouais.
Malgré l'immensité de la salle.
Ouais, au point où on va vraiment comme, on va créer une espèce un mur autour de nous pour rapetisser la scène, pour comme créer une genre de plus petite bulle. Sur la scène, fait que ça va être une grosse salle avec un gros stage, mais on verra pas la grosse scène, ça va vraiment être complètement rapetissé.
Et il y a une belle histoire d'amour entre toi et le Festival de jazz.
Effectivement, ouais.
Parce que la dernière fois, ça a été un hit, ça a été deux fois au Festival de jazz.
Deux fois.
Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que ça t'avait surpris?
non. C'est sûr que non.
Parce que ça avait parti vite, là.
Ben, ça avait parti vite, puis au départ, on nous avait offert la première partie d'un band à la cinquième salle.
OK.
Un band de l'Ouest canadien. Et puis, moi, j'ai dit, mon Dieu, oui, s'il te plaît, j'aimerais faire ça, la cinquième salle, la Place des Arts, c'est débile. Et puis, la femme qui deviendrait éventuellement ma gérante, elle a négocié pour que ça soit moi en tête d'affiche. Puis quand elle m'a dit ça, j'ai eu une petite peur parce que je me disais 450 places, est-ce qu'on va être capable de remplir ça?
Okay.
J'avais vraiment le questionnement. Je dis, on prend-tu un risque? Je veux pas avoir l'air de rentrer dans une salle à moitié vide. Et finalement, ben ça a mené à une deuxième salle comble avec quoi, 5 fois plus de capacité. c'était vraiment une surprise, un choc, puis. C'était une indication qu'on s'en allait dans bonne direction.
Le nouvel album s'appelle Solitude, et entre autres à cause des deux solitudes. Mais toi, tu en ajoutes une troisième, mm-hmm. celle du bilinguisme, parce que toi, tu viens d'une famille bilingue,
oui,
qui est une solitude en soi aussi.
Vraiment. Puis je la constate de plus en plus, je pense.
OK.
Parce que je me retrouve avec une espèce de cercle d'amis que j'ai depuis toujours, qui est très anglophone. Mais dans un milieu professionnel qui est complètement francophone.
Okay.
Fait que c'est assez intéressant, mais les solitudes, ça va plus loin que même les trois. Il y en a 4, 5, 6, il y en a des douzaines. Puis je suis parti de cette espèce d'idée des langues, parce que c'est quelque chose qui m'appartient vraiment profondément. Mais je suis allé plus loin que ça, parce que je voulais pas commencer un débat sur la langue.
Oui, parle juste plus pas. Okay. Donc, parce que tu viens d'une famille bilingue, carrément. Et toi, t'as grandi, t'écris des chansons en anglais, il y a des chansons en français, ton public est francophone, donc il y a tout ça aussi. Là. Tes présentations de chansons sont en français parce que la majorité...
Ouais.
Et toi, t'écoutais de la musique en anglais, tu connaissais pas tant les artistes francophones. Donc
c'est vrai.
Il y a tout ça aussi dans cette famille bilingue-là.
Ouais, vraiment, parce que mon père est vraiment beaucoup plus mélomane que ma mère.
OK.
Mon père avait une espèce de collection de vinyles que j'ai découvert quand
j'étais jeune. Qu'il y avait quoi dedans?
Ah, il y avait de tout. Rolling Stones, Dylan, Simon & Garfunkel, Cat Stevens. Il y avait un peu de tout.
OK.
Et puis ma mère, elle avait un disque, puis c'était Beau Dommage. Fait que j'ai connu... j'ai connu... pour vrai, c'est... Donc, je connaissais Beau Dommage, mais à part pour ça, tout ce qui était dans la culture francophone québécoise, ça a juste passé par-dessus ma tête. Et puis comme au primaire, je me suis fait un ami qui était anglophone, ma vie a pris un tournant vers l'anglophone. Et puis tout ce qui était culture, c'était surtout anglophone. Et donc, il y a 2 ans, quand je me suis comme immersé dans le monde francophone, ça a été un genre de renaissance. J'ai comme découvert des affaires que je connaissais pas du tout en partant par Gilles Vigneault, en allant par Carquois. C'est des affaires que c'est tellement inné pour tout le monde, que tout le monde connaît. Et puis que moi, j'avais jamais entendu parler. J'avais fait Le cœur est un oiseau de Desjardins La petite séduction.
Ouais.
Et puis, je connaissais pas du tout la toune.
OK.
Puis, ça montre un petit peu le c'est pas ma faute, c'est pas parce que je connais pas, c'est juste que c'était ma circonstance de vie. Fait que là, je découvre beaucoup, beaucoup de nouvelles affaires en français, puis ça m'inspire beaucoup à écrire plus en français aussi.
Ouais, ben comment ça se passe justement l'écriture? Est-ce que ça vient spontanément? En anglais ou en français, dépendamment de ce que tu écoutes, dépendamment de dans quel mot t'es, ou c'est le texte qui porte?
Ça vient vraiment de qu'est-ce que je suis en train de faire dans le moment,
okay.
L'inspiration. Ça a été plus difficile au début parce que je réfléchis en anglais, mais je compte en français. C'est bizarre, okay. Je sais pas pourquoi, la partie rationnelle de mon cerveau est francophone,
okay.
Puis la partie créative est anglophone, okay. Avec qui je travaille. C'est vraiment bizarre. Mais là, c'est rendu, si je suis en train de lire un livre ou écouter un film ou avoir une discussion en français, et puis il y a une idée qui me sort, ben le texte va sortir en français. Et puis si je suis en train de discuter en anglais ou en train d'écouter un film en anglais ou lire en anglais, ça va sortir en anglais. C'est aussi simple que ça.
Solitude, ça vient aussi d'un livre que tu as reçu quand tu avais 14 ans, que ton père t'a donné. Qu'est-ce qui avait déclenché ce livre-là d'abord à l'adolescence quand on le reçoit et qu'on le lit?
Je pense que c'était un petit peu au début aussi de mon intérêt dans la littérature, en partant par Harry Potter. Puis, ouais. C'était ma première évolution dans la vraie littérature.
Oh, oui.
Et puis comme mon père a lu à peu près tous les romans québécois-canadiens qui existent, il aime beaucoup, beaucoup lire. Et puis il m'a transmis ce livre-là parce que c'était peut-être une crise d'adolescence où je me posais des questions sur... en fait, pour vrai, la raison, c'est parce que j'étais au secondaire, dans une école francophone, mais mes amis étaient anglophones.
Okay.
Et puis, on était, je pense pas, je peux dire des gros mots, mais on était les bleep d'anglo.
Oh, OK.
Puis, malgré le fait que j'avais les meilleures notes en français,
okay.
Je trouvais l'ironie, mais il y avait une espèce de tension entre les gens qui nous aimaient moins parce qu'on parlait en anglais.
Okay.
Et donc, ça a créé une espèce de complexe. Je disais, je comprends pas parce que je suis francophone aussi. Puis j'ai un accent québécois.
Et on m'aime pas.
Mais on, ben c'est pas qu'on m'aime ben pas, ouais,
mais
c'est
on me juge.
Tu sais, au secondaire, là, les jeunes, on n'est pas gentils avec les autres. Puis ça a vraiment été ça. Puis j'ai eu une discussion avec mes parents. Puis je dis, pourquoi ils disent ça? Je comprends pas. Puis mon père a dit, j'ai un livre parfait pour toi. Puis c'est un livre qui explique un petit peu la dynamique franco-anglo, surtout dans la Première Guerre mondiale.
Mm-hmm.
C'est une histoire d'amour entre une anglophone et un francophone qui deviennent amoureux l'un de l'autre. Mais leur famille résiste un peu. C'est un petit peu à la Roméo.
Ouais, ouais.
Mais dans le contexte francophone-anglophone du Québec. Donc, c'est quelque chose de fascinant. Puis qui existe encore aujourd'hui, peut-être moins intensément que dans le temps où ça a été écrit. Mais qui existe encore. Puis qui vit de façon beaucoup plus subconsciente, je trouve, chez les gens.